Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
À la découverte de l'univers de notre invitée, Diaka Camara est productrice, journaliste, animatrice et chef d'entreprise guinéenne. Elle dirige l'agence CBC Worldwide Com et Prod, qui produit notamment Le Mannequin. C'est la première émission de télé-réalité d'Afrique de l'Ouest francophone. Elle est avec nous sur le plateau d'Africa Radio dans le cadre de la promotion de la troisième édition de cette émission, Le Mannequin, et aussi dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Merci de nous rejoindre sur le plateau. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Vous allez bien, Diaka Camara?
Bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau et merci à tous les auditeurs, excusez-moi.
Alors, on va parler de vos engagements, on va parler également de votre casquette de chef d'entreprise et de cette émission qui en sera sa troisième édition. Pas mal de nouveautés sur lesquelles on va revenir dans un instant. Vous êtes également très engagée, très active au sein notamment de votre fondation qui œuvre pour l'éducation des filles et qui lutte contre toutes les formes de violences qui sont faites aux femmes. Alors, vous êtes une passionnée d'audiovisuel, vous êtes férue également de culture et vous avez décidé en 2011, après avoir étudié en Europe mais aussi aux États-Unis, de retourner en Guinée pour vivre cette passion et lancer également cette belle émission. Alors vous êtes retourné en Guinée en 2011. Racontez-nous un petit peu la petite histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en Guinée, Diaka Camara?
Mais écoutez, j'étais aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai étudié là-bas. Et je suis journaliste de formation. Et donc, je me suis dit un jour, en 2011, je me suis dit, mais ça serait temps de retourner en Guinée, parce que venait d'avoir notre premier président démocratiquement élu, oui, et qui encourageait toutes les jeunes personnes à revenir au pays. Je me suis dit, why not? C'est le moment de rentrer et de me lancer dans tout ce qui est communication et production audiovisuelle. Parce que pour moi, la Guinée reste un des plus beaux pays au monde, oui, avec une très belle culture, un peuple chaleureux. Donc je me suis dit, il y a tellement de choses à montrer de la Guinée qu'on ne voit pas très souvent. Et je me suis dit, ce serait important de créer du contenu pour valoriser mon pays, pour montrer ces choses, comme j'ai dit, ces différentes facettes cachées de la Guinée qu'on voit très rarement. Et d'où l'idée de revenir et de créer mon entreprise CBC Worldwide Communication et Production. L'objectif, c'était de créer du contenu made in Guinée qui, oui, a la même qualité, oui, que tout ce qu'on voit sur les chaînes américaines. Parce que why not, c'est possible, le talent, on en a assez en Afrique, oui, donc et c'était là, c'était important. Moi, je me suis toujours dit, c'est important pour nous de raconter nos propres histoires, oui, afin de les raconter de manière vraie et authentique. Et donc je me suis dit ok.
Alors c'est passé d'abord par un programme musical, le Top 10, qui était très suivi.
Tout à fait, Top 10.
Diffusé sur différentes chaînes.
Oui, c'est exactement, y compris la télévision nationale. Et oui, je me rappelle la première fois qu'on a diffusé Top 10. Sur les réseaux sociaux, les gens se sont levés, ils m'ont accusé d'avoir voulu américaniser la télévision nationale. Ouais, ouais. Mais c'était une émission qui était vraiment faite pour cette jeunesse guinéenne, et vraiment pour leur permettre aussi, à eux aussi, de jouir des dernières tendances de la musique à travers, ouais, le monde. Et aussi, c'était une plateforme pour mettre en avance et en valeur le talent guinéen. Donc, je faisais les interviews des artistes guinéens. Et comme je vous dis, le talent, quand on parle d'artistes guinéens, on parle de Soul Banks, on parle de Azaya, on parle d'un 5
Takana Zayan, voilà, Manamba Kanté,
Namamba Kanté, Gianni Alpha,
Bébé Baya,
Degji, Kandiakora, Banlieusard, ils sont tellement, tellement nombreux, Kayla Kay. Et donc, c'était pour moi une opportunité de leur donner une plateforme, ouais, pour mettre en avant leurs talents et les valoriser et les mettre au même niveau, si vous voulez, que les artistes internationaux. Why not? Ils ont tous le même talent.
Alors, l'autre défi, et pas des moindres, à vous lancer en 2018, la première émission de télé-réalité ouest-africaine, le mannequin qui a captivé pendant des semaines des millions de Guinéens. Donc, pendant les diffusions de l'émission, il n'y a pas grand monde dans les rues en Guinée. Une émission qui a beaucoup séduit le public guinéen et bien au-delà. L'objectif n'était pas de calquer les émissions européennes, mais plutôt de l'adapter au contexte de nos pays africains, attaché tout au long de ces deux premières éditions à valoriser et respecter nos traditions et nos cultures à travers ce programme. C'était très important pour vous, puisque à travers ce programme, il y avait une vision, votre vision, l'autonomisation des femmes, montrer le talent des Guinéens, valoriser la femme africaine, notamment développer aussi l'industrie de la mode africaine. Il y avait beaucoup, beaucoup de missions à travers cette émission de télé-réalité d'Yaka Camara.
Et vous avez tout à fait raison, j'aime bien le mot mission. Ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, le mannequin m'a pris 8 ans à réaliser. Parce que je suis arrivée en Guinée, ils n'étaient pas prêts pour la télé-réalité. Il fallait un peu travailler sur les mentalités des téléspectateurs. Même eux, les préparaient mentalement à cette émission.
Ouais.
Et donc, nous avons fait le premier casting en 2011. Et comme vous avez dit, l'objectif de l'émission, c'était vraiment de valoriser la Guinée, de valoriser le talent de la femme guinéenne. Je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui savent pas que Katoucha Niang est guinéenne.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, exactement. Et j'ai toujours dit, Katoucha Niang n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Des Katoucha Niang, on en a plein dans les rues de Conakry. Et donc, je voulais vraiment donner à ces jeunes filles une plateforme pour pouvoir valoriser ce talent et leur montrer que c'est un métier.
Ouais.
Parce que souvent, on a cette connotation négative du mannequinat en Guinée, en Afrique en général. On se dit, ouais, c'est de la délinquance, c'est de la prostitution. Alors que non, c'est un métier et c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Et c'est un métier à travers lequel on peut bien gagner sa vie. Et c'était donc pour donner cette opportunité à ces jeunes filles, pour dire, vous avez un rêve, travaillez dur, vous pouvez y arriver. Et c'est ça où c'est fait. Il n'y a pas de raccourci et il n'y a pas de magie. Et c'était aussi pour montrer à la Guinée, à l'Afrique toute entière, que c'est un métier, premièrement. Et à travers l'émission, valoriser non seulement l'industrie de la mode, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a une population très jeune.
Oui.
Et notamment en Guinée, plus de 50% sont jeunes. Et donc, c'était de montrer que si on développe l'industrie de la mode, on peut créer de l'emploi. Qui parle d'industrie de la mode, parle de styliste, parle de coiffeur, parle de maquilleur, parle de directeur artistique, parle de photographe. Il y a plein de métiers qu'on peut développer à travers cette industrie pour essayer de combler un peu les besoins de cette jeunesse. Et d'un l'autre part aussi, c'était la formation.
Ouais.
Parce que nous avons fait venir des make-up artistes, par exemple, de Chicago, qui a travaillé avec une équipe locale et qui a transféré certaines de ses compétences
d'accord,
à ces jeunes femmes.
Ouais.
Vice-versa pour ce qui est de la photographie et aussi de la coiffure. Parce que c'est important. Il faut former cette jeunesse pour qu'ils puissent obtenir ces boulots. Comme je dis, c'est pas de la magie, il n'y a pas de raccourci, c'est le travail qui paye. Et donc, l'autre aspect aussi, c'était la valorisation de la Guinée. J'y reviens, j'y tiens, parce qu'encore une fois, la Guinée est un beau pays et on te retrouve souvent en Afrique, lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de tout ce qui ne va pas, la guerre, la famine, les manifestations, les protestations. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses aussi qui marchent chez nous. Et c'est important de valoriser ces choses. Et moi, j'ai vraiment tenu à valoriser le potentiel culturel et touristique de la Guinée,
ouais.
Et aussi nos valeurs, nos traditions et nos mœurs. Comme vous avez dit, moi, j'ai grandi aux États-Unis. L'émission est inspirée d'American Next Top Model,
ouais.
Mais africanisée pour respecter nos valeurs, nos traditions. Je vous fais rire pour la première.
Ce qui permettait aussi de faire découvrir des paysages à couper le souffle en Guinée. Vous avez organisé pas mal de shootings avec les candidates et on a vu ces paysages incroyables. C'est vrai que lorsqu'on parle de la Guinée, le plus souvent, on dit que c'est le pays le plus pauvre au monde, que c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'était aussi une manière de montrer cette belle Guinée. Loin des clichés.
Loin des clichés, exactement. C'était pour démystifier et pour briser les clichés. Et effectivement, c'est pour ça que je dis toujours, si on crée le contenu, on donne une histoire vraie et authentique. J'ai pas inventé les paysages que vous avez vus dans le mannequin. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas inventé les infrastructures. J'ai montré la Guinée telle qu'elle est aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, c'était important de faire voyager, comme vous avez vu. L'émission a cartonné en Guinée, mais au-delà, au-delà de la Guinée, parce qu'après, sur les réseaux sociaux, par exemple, on l'a mis sur YouTube, elle a été regardée dans 54 pays à travers le monde. Et moi, quand je vois des commentaires tels que « Oh mon Dieu, c'est les plus belles chutes, oh mon Dieu, la Guinée est un si beau pays, je ne savais pas, oh mon Dieu, il faut qu'on aille visiter », je me dis « Yes, mission accomplie », parce que c'était ça l'objectif.
Alors là, l'occasion de la troisième saison, le casting a été ouvert aux candidates sur l'ensemble du continent africain. Pourquoi c'était important pour vous d'ouvrir le concept ?
Parce que le mannequin, à la base, c'est une émission panafricaine. Pour les deux premières saisons, c'est vrai que nous avons eu que des candidates guinéennes. Mais par exemple, on a invité des gens dans l'industrie de la mode un peu partout sur le continent africain.
Ouais.
On a invité des stylistes, des photographes. On a invité la fameuse styliste rwandaise Sonia Mugabo, Ibrahim Fernandez de la Côte d'Ivoire, Tony Santana de la Côte d'Ivoire, Alexis Rousseau était venu comme ambassadeur coiffeur de L'Oréal. Donc c'était ça l'objectif. Et donc vu que l'émission était tellement populaire, donc on avait toujours l'intention de faire un casting panafricain, parce que mon objectif, ma vision du mannequin, c'est de voir le mannequin un peu partout à travers l'Afrique. Comme je le disais, pour la saison 3, le casting a été ouvert à toute l'Afrique et il vient donc compétir en Guinée. Et si la gagnante est d'une autre nationalité, mais pour la prochaine saison, on part dans son pays pour faire le mannequin. Voyez un peu. Et pour montrer que vraiment l'Afrique, c'est une famille. Il y a plus qui nous unit que qui nous départage. Donc c'est ça, au fait, l'objectif, c'est de vraiment, et aussi utiliser cette émission pour montrer l'évolution et l'émergence de l'industrie de la mode sur le continent africain.
Ouais.
Là, aujourd'hui, quand on parle de la mode en Afrique, on parle des Naomi Campbell à Lagos pour les Fashion Week, on parle de l'Angola, on parle du Sénégal, on parle de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, il y a des choses qui sont en train d'être faites sur le continent. Et j'espère vraiment à travers le mannequin pouvoir valoriser toutes ces choses sur le continent africain.
Valoriser également les femmes, également raconter leur combat et également mettre en avant leurs droits, puisque vous êtes très engagé contre les inégalités, notamment à travers votre fondation. Vous œuvrez au quotidien pour contribuer au changement structurel en Guinée. Alors, vous avez beaucoup de causes, en fait, que vous défendez, notamment investi contre l'excision, contre les violences faites aux femmes. Alors, parlez-nous un petit peu de tous ces engagements, Diaka Camara. D'où ils vous viennent ?
Et effectivement, je me suis toujours dit que le développement socio-économique en Afrique ne se fera qu'à travers l'éducation. C'est la base de tout. Et aussi, je me suis dit que c'est important de soutenir toutes ces jeunes filles. Chaque personne a droit à l'éducation. Et surtout les jeunes filles. Parce que c'est ça, au fait, dans nos sociétés, la jeune fille est toujours mise en arrière. On se focus toujours sur le garçon. C'est lui qui doit s'occuper de la famille. Alors que les filles aussi ont beaucoup à apporter à la société. Elles le font même, parce que je dis toujours, derrière tout grand homme se cache une plus grande femme.
Et d'ailleurs, vous avez un modèle, vous, puisque vous avez une mère juriste, vous avez grandi.
Exactement.
Auprès d'une mère juriste.
Une mère juriste, une mère battante. Elle a travaillé toute notre enfance, toute notre jeunesse. Elle était très engagée et elle nous a toujours dit étudier. Il n'y a pas de raccourci. Et donc, d'où l'idée de l'élaboration de la fondation, même Diaka Camara pour l'éducation, c'est un hommage à ma mère, parce que c'était son champ. Étudier des bonnes notes, si tu n'avais pas, elle voulait même rien entendre. Et donc, et comme j'ai dit, l'éducation, parce que c'est à travers ça qu'on peut changer les mœurs de nos sociétés. Aujourd'hui, quand vous prenez l'excision, il n'y a aucune raison que cette pratique perdure en Guinée et dans les sociétés africaines aujourd'hui. Je suis désolée. Si les victimes de la pratique osé briser le silence, comme je le dis, et expliquer les dégâts de cette pratique sur la santé de la femme et sur son épanouissement, sur son esprit mental. En fait, surtout, je pense que on aurait fini avec la pratique.
Ouais.
Et y compris avec les violences basées sur le genre dans nos sociétés. Lorsque ton mari te bat, c'est normal. Tu dois accepter, c'est ça le mariage. Lorsque ton petit copain te viole, la première chose qu'on va te demander, mais pourquoi tu es parti chez lui? Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Et lorsque ton patron te fait des avances, on a tendance dans la société à voir ça comme un compliment. Alors donc, c'est du harcèlement. Donc, mais tout ça, ça s'apprend. Il faut éduquer ces populations. Il faut éduquer ces jeunes filles pour dire non veut dire non, quelles que soient les circonstances ouais. dans lesquelles tu te retrouves. Au boulot, ton patron n'a pas le droit de te faire des commentaires sexistes. Ton patron n'a pas le droit de t'imposer des relations. Dans ton foyer, ton mari n'a pas le droit de te battre. Dans ton foyer, ton mari n'a pas le droit de te violer. Et il peut te violer, parce que si tu dis non et qu'il insiste, c'est du viol. Mais tout ça, ça doit s'apprendre. Et apprendre aussi à ces victimes qu'elles ne sont pas des victimes, ouais. mais qu'elles sont des voix. Quelles sont des voix qui peuvent inspirer d'autres qui sont en train de subir ces choses dans ce moment maintenant à parler. Et c'est ça d'où est venue l'idée de la campagne « Brisons le silence ». Parce que c'est ça, c'est des conversations qui sont tabous dans nos sociétés.
C'est vrai.
Et plus on reste silencieux, plus ceux qui défendent ces causes prennent le dessus sur nous. Donc c'est un peu cela. Et encore une fois, c'est l'éducation. Il faut éduquer ces jeunes filles à apprendre c'est quoi leurs droits.
Ouais.
Exactement, parce qu'une fois que tu connais tes droits, on peut pas les bafouer. Lorsqu'on prend l'excision. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu à travers toutes les communications et les campagnes de sensibilisation que j'ai eu à faire,
oui.
les parents, même la nouvelle génération, même la génération de nos parents, ils sont partis à l'école. Ils sont contre. Le père va dire à sa femme, tu n'exciseras pas ma fille. Mais après, la belle-mère, la tante, la grand-mère vient kidnapper l'enfant pour aller l'exciser. Et toi, d'abord, en tant que fils, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies ta mère en prison? Parce que, par exemple, en Guinée, l'excision est interdite dans la loi. Elle est formellement interdite. Mais lorsque on saisit même la loi, on arrête les gens qui excisent. Mais vous allez voir, c'est la société même, c'est les parents, c'est les parents même de la victime, ceux qui ont participé à la cérémonie, qui viendront demander qu'on libère l'exciseuse. Voyez un peu. Donc, il faut vraiment éduquer les sociétés d'aujourd'hui afin de sortir de cette mentalité, de sortir et de briser ces tabous et d'arrêter ces pratiques qui ne servent à rien aujourd'hui. Et j'ai été attaquée, on me dit oui, l'excision, ça fait partie de notre culture. Mais pourquoi ne pas choisir les bonnes choses qui font partie de notre culture et les perpétuer et laisser les choses qui n'apportent rien à même notre image en tant qu'Africain, parce que c'est une pratique barbare. Donc pour ne pas laisser ce qui n'est pas bien et se concentrer sur ce qui est bien, valoriser sur ce qui est bien de notre culture.
Jeka Camara, je rappelle que vous êtes productrice, journaliste, animatrice, chef d'entreprise. Vous êtes venue nous parler un petit peu de votre actualité à travers la troisième saison de cette émission, première télé-réalité en Afrique de l'Ouest francophone, le mannequin, troisième édition. Alors ça commence quand? Où est-ce que ce sera diffusé? Où est-ce que ça en est au niveau des castings? Est-ce qu'ils sont toujours ouverts à ceux peut-être qui nous écoutent ici et là sur le continent africain?
Oui, le casting est ouvert. On a plein de candidates.
Ouais.
Et vraiment voir l'engouement à l'international, ça réchauffe le cœur. Ça montre qu'on est sur le bon chemin. Donc pour le moment, nous sommes dans la phase préparatoire.
D'accord.
On n'a pas encore fixé de date pour l'émission, parce que vu que maintenant c'est quelque chose de vraiment international panafricain, il y a plein de paramètres.
D'accord.
Qu'on doit prendre en considération
pour la diffusion.
Exactement, tout à fait. On est en train de parler pour que ce soit juste sur une seule chaîne, une des grandes chaînes.
D'accord.
Dont je vais taire le nom pour
D'accord.
le moment.
On va attendre. Alors.
Voilà, on va attendre. Donc il y a plein de choses qui se préparent, et puis on veut aussi voir comment cette histoire de coronavirus, comment ça va évoluer, parce que on veut pas propager la maladie un peu partout. Et donc, mais ça sera pour bientôt. On fera l'annonce, ça sera pour bientôt. Mais ça se prépare, ça se prépare.
Alors, il reste juste 1 minute 30, c'est passé très vite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Comment vous avez envie de conclure?
Mais écoutez, j'ai envie de dire à toutes ces femmes battantes à travers le monde de continuer de se battre. Je sais que c'est pas facile, moi, en tant que chef d'entreprise. Ça a été très, 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 très difficile en Guinée, mais j'y ai cru. Et aujourd'hui, CBC Worldwide produit des émissions, des séries, des documentaires, notamment même, j'ai un reportage qu'on a fait sur le mariage précoce, qui est aussi une des violences,
oui.
Et qui passera demain soir
oui.
sur Enquête d'Afrique avec Afsatsi.
D'accord.
Et donc, ça, c'était ma vision de faire une compagnie de production audiovisuelle made in Guinée et oui. dont les productions seront vues à travers le monde.
Oui. Bravo
je pense
pour
que
cela.
Je suis sur le chemin. Et donc, j'invite toutes ces femmes à croire en leurs rêves, à persévérer, à se battre et à ne jamais give up, ne jamais baisser les bras. C'est pas facile, mais c'est ensemble que nous arrivons à changer les mentalités et les mœurs. Et moi, la femme africaine, c'est un super-héros. La femme, même en général, c'est un super-héros. Donc, on a déjà des pouvoirs exceptionnels, je pense. Et donc, à toutes ces femmes, bravo, courage. Je vous encourage et continuer.
Merci beaucoup d'être venu. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Diaka Camara, on vous dit beaucoup de belles choses. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Bon vent à vous. Et puis, on reparlera de l'émission Le Mannequin, saison 3. C'est la pause. On se retrouve après.